Le grand témoin.
Bonjour et merci de rester fidèle à Grand Témoin. Grand Témoin vous fait découvrir aujourd'hui Kasongo Munganga Constantin. Il est homme politique congolais, il est député national, il est ancien administrateur délégué général adjoint du Centre d'évaluation, d'expertise et de certification des matières précieuses et semi-précieuses. Monsieur Kasongo Munganga, c'est un plaisir de vous recevoir dans Grand Témoin. Et avec vous dans cette émission, nous allons vous présenter auprès des auditeurs des Radio Okapi qui nous suivent en ce moment partout en RDC et même à travers le monde, grâce à notre site internet www.radiookapi.net. Comment vous allez d'abord, monsieur Munganga?
Et je vais très bien, Dieu merci, parce que je viens d'être opéré en Inde de la prostate. Maintenant, grâce à la Sainte Vierge Marie, à bon Dieu, je me porte très bien.
Je comprends que vous êtes chrétien catholique.
Ah, je suis chrétien catholique, vraiment.
Alors, comme je l'ai dit, on va vous présenter auprès des auditeurs de Radio Okapi qui nous suivent en ce moment. Mais on va commencer par une brève biographie de votre personne, c'est-à-dire on va faire un grand pas en arrière. Pour parler de votre enfance, vous êtes né un certain 22 juillet 1944 à Ngulungu.
Oui.
C'est dans la province du Kasaï
oriental, territoire de Katanda, district de Tshilenge, province Kasaï oriental.
Et c'est là que vous avez passé votre enfance, à Ngulungu?
Oui, à Ngulungu, de là où je suis né, j'ai passé mon enfance et j'ai fait mes études primaires jusqu'en deuxième, de troisième à quatrième. J'étais à Katanda, cinquième, sixième à Lusambo pour revenir à Ngandajika où j'ai fait la 7e préparatoire et nous avons commencé le collège Saint-Georges jusqu'en 62. Alors en 62, j'ai quitté Ngandajika pour venir ici à Kinshasa où j'ai commencé.
École primaire, humanité au Kasaï oriental.
Humanité, une partie au Kasaï oriental, mais le cycle inférieur. Le cycle supérieur, c'est ici à Kinshasa au collège Albert Premier, qu'on appelle maintenant collège Boboto. C'est là où j'ai fait la troisième, la poésie et la rhétorique.
Et pourquoi vous n'êtes pas resté au Kasaï pour faire les humanités supérieures? Vous avez préféré venir ici?
Ah oui, je suis venu ici parce que mon grand frère, qui est tout premier médecin congolais, docteur Elon Félicien, il m'a fait venir ici, il m'a pris en charge parce que j'avais perdu mes parents en bas âge, hein, donc avant l'indépendance, avant que vous soyez des Kelly. Oui, oui. Donc mon grand frère m'a pris en charge et quand il est parti à Mbujimayi, il m'a laissé à l'internat, le collège Albert Premier, où je faisais la messe, j'assistais à la messe comme assistant, servant des messes au lycée du Sacré-Cœur.
Parce que vous aviez des ambitions de devenir prêtre, ça vous tentait de devenir prêtre?
Exactement, vous avez tapé juste. Je devais devenir prêtre, mais là, ma vocation a été un peu, quelque peu perturbée quand je suis venu à Kinshasa.
Par qui? Par la vie à Kinshasa ou par quoi? La vie à Kinshasa a perturbé
si vous
votre
voulez
vocation?
Oui, la vie à Kinshasa a perturbé ma vocation de devenir prêtre. Ce n'est pas facile d'être prêtre, il y a des conditions, hein. Alors c'est pourquoi maintenant je cherche toujours à remplir le service de Dieu autrement, tout en étant marié. Je crois que peut-être si je peux vous le dire, au mois de juillet ici dans la paroisse de Katanda Saint-Michel, je veux me mettre à faire la construction de la croix de la Sainte Vierge Marie.
C'est une bonne chose pour les chrétiens, oui, pour les fidèles chrétiens. De cette église. Donc vous êtes marié, père de combien d'enfants?
Et 7 enfants, 5 garçons et des filles.
Alors dites-nous, Kasongo Munganga Constantin, vous avez grandi dans quelles conditions?
Oh non, dans l'enfance.
Vous avez perdu vos parents trop
les
tôt.
Les parents, j'ai connu ça, oui. Les conditions étaient très, très, très difficiles. Chez nous, à Katanda, à Ngulungu, à Katanda, on était vraiment, j'étais orphelin. Mais il y a eu alors les grands frères, mon grand frère qui, à Lusambo, j'ai commencé à être très bien parce que le grand frère Kazadi Gaspard, qui était agronome de Cadillac, alors il m'a pris en charge. Et après, mon grand frère Félicien, surtout quand Félicien m'a pris en charge, que j'étais bien. Vraiment, ici, nous habitions ici à Kinshasa, sur citoyen numéro 1, en face de l'ISC, où je suis également chef de travaux.
Quel est le souvenir qui vous a le plus marqué pendant votre jeunesse?
Pendant ma jeunesse, j'ai trouvé que, vraiment, même si on est malheureux, pauvre, il faut toujours étudier, travailler davantage, on peut réussir. C'est ce qui fait que moi-même, j'avais 13 ans et j'ai cherché à aller même à Lusambo, là où il y avait les grands frères, pour m'aider. Donc j'ai travaillé dur et j'ai réussi. Et alors c'est pourquoi ce que je peux dire à tous ceux qui m'écoutent, c'est que en déployant les efforts, on peut parvenir à tout.
Alors après vos études humanitaires, qu'est-ce que vous avez fait à l'université?
Quand j'ai terminé, je voulais faire la médecine. Mon grand frère a dit non, moi j'ai déjà fait la médecine. entreprise, fais autre chose. C'est ainsi que j'ai fait l'économie.
Pourquoi l'économie? Pourquoi pas le droit? Pourquoi pas les relations internationales? Pourquoi
oui,
pas...
Oui, non, d'abord, j'ai songé à devenir prêtre. C'est le grand frère là qui avait dit non, après. Donc, je ne suis pas parti au petit séminaire. Mais alors, sinon, je comptais alors faire la médecine. Comme j'étais à côté de lui, j'étais tenté de vraiment de faire la médecine. Quand elle refusait, alors il m'a dit de choisir entre la médecine et la pharmacie. Alors j'ai choisi l'économie comme ça. J'ai choisi l'économie sans y avoir songé bien avant.
Et lorsque vous avez commencé à suivre des cours d'économie, vous vous êtes retrouvé, ça vous plaisait?
Oui, maintenant ça me plaît. Je suis monétariste, hein, l'orientation.
Et donc vous avez comme ça une licence en sciences économiques de l'université de Lovanium. Vous avez obtenu cette licence en 1970.
Oui.
Et après vous avez obtenu un autre diplôme post-universitaire de développement économique et de la planification.
À Dakar, à l'IDEP Dakar en 79.
C'était pour...
Là, c'est planification.
Spécialisation.
En planification du développement. Et puis là, ce n'était pas encore l'économie, c'est la planification. Et après, mais quand je suis venu ici chez nous pour avoir des données un peu sur la planification, j'étais au ministère du plan, j'ai trouvé que vraiment notre pays, on parlait du plan, mais il n'y avait rien de la planification. Et même les prévisions, vraiment, non, ça se faisait comme ça. Donc c'était comme un jeu. C'est ainsi que j'ai abandonné. Alors, en 1982-83, je suis parti en Belgique, à Louvain, Louvain-la-Neuve. C'est là où j'ai commencé à m'orienter dans les problèmes monétaires. J'ai fait la maîtrise en sciences économiques. Mais que je n'avais pas terminé parce que c'était deux ans. J'ai fait une année et je suis rentré pour prendre mon épouse. Comme il y avait certains problèmes pour partir avec la famille, je suis resté. Quand à Lovanium, on a commencé les DIA, diplôme d'études économiques approfondies en économie monétaire financière internationale. Alors, je suis entré, je suis de la première promotion, justement, d'IDEA, de troisième cycle.
Pourquoi vous avez choisi l'option économie monétaire?
Monétaire, justement, d'abord avant, en économie, j'avais songé d'abord à la planification. J'ai vu que ce n'était pas très bien suivi et appliqué ici. Et puis, j'ai trouvé même la planification commencer à long terme, commencer à perdre de la valeur donc, dans le monde et qu'on s'occupait beaucoup plus de la programmation, peut-être financière, programmation et à court terme. Et en ce moment-là, j'étais un peu aussi, je suivais des gens comme le professeur Mabi Moulumba, des grands monétaristes. Alors, ça m'a frappé. J'ai dit que non, il faudrait que moi aussi, je puisse le devenir.
Satisfait aujourd'hui de cette formation que vous avez eue en économie?
Oui, je suis très satisfait. Et pour le moment, justement, avec le professeur Mabi lui-même, donc, qui est le promoteur de ma thèse de doctorat en sciences économiques, je prépare la thèse. Je vais présenter ma thèse. Je pense que vous serez là à la présentation de la thèse.
Alors, on attend l'invitation. Dites-nous, qu'est-ce que vous n'aimez pas dans la vie?
Ce que je n'aime pas dans la vie, il y a les mensonges. Et puis, je n'aime pas qu'on maltraite les gens. J'aimerais plutôt l'amour du prochain, parce que qui est le condensé du commandement de Dieu. L'amour envers Dieu et l'amour envers le prochain.
Monsieur Kassongo Constantin, c'est quoi votre plat préféré?
Le plat préféré... le plat préféré, donc je peux dire que j'aime le foufou, le bidia, et avec comme légumes, le mpondo, bien sûr, et le poisson.
Le poisson salé, poisson frais, poisson fumé.
Le poisson fumé, le poisson salé, ça j'aime aussi. Mais je peux dire que de façon générale, je mange tout.
Alors, on va parler de votre expérience professionnelle, Monsieur Kassongo Constantin Munganga.
Oui.
Après vos études à l'université, quel est le premier métier que vous avez fait?
Le premier métier, j'étais conseiller économique et financier au ministère de l'Intérieur. Au ministère de l'Intérieur, là, de 70 jusqu'en 74. En 74, alors, j'ai commencé à être assistant à l'Institut supérieur de commerce. Je suis chef de travail jusque maintenant. Pour le moment, je crois que j'ai pu dire que je suis l'enseignant le plus vieux à l'ISC. Ceux qui étaient un peu avant moi, les autres, ils ont déjà quitté, ils ont parti, c'est le bon Dieu. Tout en étant à l'ISC, j'ai commencé à travailler aussi à la Banque centrale comme inspecteur analyste financier, inspecteur des banques. Et à ce titre-là, la banque, en 98, la banque m'avait envoyé à la Sofide pour le redressement de la Sofide. Et donc, c'est en grande partie grâce à moi que la Sofide a été a pu être redressé.
Ça veut dire que vous avez fait un bon travail là-bas. Avez réussi à redresser un peu la Sofidé. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la Sofidé, en quelques mots, qu'est-ce que vous pouvez leur dire?
Ceux qui ne connaissent pas la Sofidé, c'est que la Sofidé était là pour le financement de notre économie, le financement à long terme, parce que les banques donnent souvent des crédits à court terme. Mais c'est la Sofidé avec des fonds de l'État, donc du gouvernement et les fonds de la Banque centrale, surtout parce que les grands actionnaires, c'était la Banque centrale et le gouvernement congolais. Et puis, il y a des fonds également que donnaient la Banque mondiale et l'Allemagne. Malheureusement, c'était mal géré. Et mal géré, c'est bien que la Sofidé s'est trouvée par terre et il devait être liquidé comme d'autres banques parce qu'en 98, on a commencé à faire l'assainissement financier. Et moi, à ce moment-là, vous pouvez peut-être passer même à la Sofidé. J'ai dit aux travailleurs de la Sofidé que si nous ne redressons pas, vous serez renvoyés tous, on va liquider. Alors, c'est bien qu'on a dû regrouper les agents de la Sofidé en haut. Alors, en ce moment-là, si tous les comptes d'exploitation est devenu positif, parce que vous savez qu'en économie ou en matière financière, quand le compte d'exploitation est déficit, justement ça va éroder, donc ça, même les fonds propres vont devenir négatifs aussi. En ce moment-là, l'entreprise, une banque, commence à vivre des fonds d'autrui. Alors en ce moment, il y a un risque dans la demeure, alors la Banque centrale intervient pour la liquidation. Mais les gens m'ont écouté, justement la Sofidé n'a pas pu être liquidée.
Grâce à vous.
Oui, grâce
vous
à
vous. Vous
en êtes fier. J'en suis très très fier. Alors après, j'ai été retraité dignement au niveau de la Banque centrale. Et en ce moment-là, quelques temps après, je me travaillais dans la société civile avec son excellence ministre Bahati, la société civile, j'ai été nommé ADGA et puis ADGAI au centre d'expertise. Hein?
Vous aviez pris déjà
quand j'ai pris la retraite, ça n'a pas fait beaucoup. Quand j'ai pris la retraite, au lieu de rester comme ça, assis, j'ai commencé à faire des études de DEA à Lovanium. Et puis, en même temps, quand on a fait le partage lors de la transition, j'ai été nommé ADG au centre d'expertise.
Au centre d'évaluation des certifications des matières précieuses
et semi-précieuses.
CEC. Là, vous êtes resté combien de temps là-bas?
Je suis resté 3 ans. J'ai été nommé en 2006, en janvier 2008. Que j'ai été remercié ou qu'on nous a remplacé, qu'il y a eu d'autres qui nous ont remplacé.
Parce que la gestion n'était pas bonne?
Non, c'est pas que la gestion n'était pas bonne. Et quand nous avons été nommés, nous, c'est pendant la période de transition, où on donnait des fonds, où le président n'était pas libre, était obligé de partager ses postes avec la société civile, avec les différentes composantes militaires, là. Et alors, mais par après, justement, quand lui-même a eu à gagner aussi même les élections, tout ça, il a dû refaire nommer d'autres mandataires. Mais j'avais prévu déjà que ça n'allait pas très bien. C'est moi qui avais demandé au ministre en ce moment-là, Khalil Kabila, justement de me faire un arrêté pour que nous puissions commencer l'exploitation de matières semi-précieuses, comme le coltan. Oui. Et on a commencé, c'est ce qui avait commencé à faire vivre vraiment le CEC.
Le CEC. Alors, on va souffler un peu, Monsieur Kasongo.
Oui.
Comment vous passez vos moments de détente?
Les moments, maintenant.
Je peux
dire que maintenant, vraiment, pratiquement, je ne parviens pas vraiment à me reposer. Si je ne parle pas, parle pas pour le moment, ou bien, j'aimerais toujours lire quelque chose, étudier.
Pourquoi vous prenez pas le temps de vous reposer aussi un peu?
Le temps de me reposer. C'est ça me fait défaut, c'est un défaut. Et pour le moment, on me dit peut-être qu'il faut aller se promener à gauche, à droite. Dans les temps, lorsque j'ai cherché à me détendre, les loisirs que nous avions dans les temps, ça n'existait plus. Dans les temps, je faisais un peu la natation. Quand nous étions au collège Albert, ou bien à Lovanium, l'université de Kinshasa. Oui. Ou bien même, encore un autre endroit qu'on faisait, c'était à la Funa, là. Hein? Donc, il y avait une piscine. Et puis après, dans les temps, je faisais aussi du football. Hein? J'ai joué le numéro 7, hein? Ailier droit. Bon. Et puis, le judo aussi, qu'on faisait. Mais maintenant, des stades de judo n'existaient plus. Alors, donc.
Mais il y en a quand même.
Les salles de judo, je
ne sais pas. Peut-être pas des salles appropriées, mais on essaie de faire quelque chose qui ressemble aux salles.
Oui. Sinon, c'est ça que je faisais, mais quand ça avait disparu, alors, je ne savais plus rien faire. Mais le soir, à partir de 19h, Je cherche à écouter les informations. 19h, 20h. Et après ça, je suis les débats. Et éventuellement, je peux suivre des films comme Ma Famille.
Ça, vous aimez ça?
Ah oui. Je peux dire que ça, c'est quelque chose de préféré. Oui, parce qu'il joue, très bien. Et j'aimerais que le Congrès puisse suivre un peu cet exemple-là pour faire un peu des choses qu'on voit que c'est des choses vraiment un peu vraisemblables. Mais, plutôt que où on met des ce que nous faisons, nous, on joue dans les bouts, on met des craies, on se salit, on imite les handicapés physiques. Alors ça, ça ne peut pas. Mais quand c'est la famille, alors là, c'est...
Mais il y a des troupes quand même ici qui se distinguent aussi, non?
Mais nous avons régressé parce que par le passé, on avait des troupes comme les théâtres des 12. Hein? Les théâtres des 12, là, je vois que vous n'avez pas connu ça. Les théâtres des 12 qui avaient joué Mundelendombe. Oui. Hein? Mundelendombe, et puis... L'autre que vous n'avez pas connu, l'avocatserie de l'oncle Tom, de l'oncle Sam. Donc c'était très bien par le passé. Mais maintenant, quelqu'un qui peut jouer comme un homme, ça, il n'y en a plus. Mm-hmm. Ou bien la secrétaire particulière, des choses comme ça. Mm-hmm. Oui, mais maintenant, non.
Maintenant, vous préférez regarder la série Ma Famille.
Oui.
Est-ce que vous arrivez de temps en temps d'écouter la musique, hein?
D'écouter la musique. La musique, notre
même
musique.
Même à la maison, peut-être notre musique ou la musique étrangère.
S'il y a musique. Ce que j'écoute, peut-être je ne peux pas vous décevoir, c'est la musique traditionnelle, essentiellement la musique de chez moi, la musique Luba. J'ai décédé même dans ma voiture.
Alors, oui. De qui? De l'Elimba, de la Mamou Nationale?
C'est la musique traditionnelle, et s'il y a des gens qui sont ici, que vous pouvez connaître, vous voyez un peu Kabomoutine Sensa. Et puis, Kalubi Prêtre, et Patre, alors ce sont ces gens-là, la musique Luba. C'est ce que j'ai connu dans l'enfance. Et c'est ce que j'écoute. Mais la musique moderne, comme vous avez dit, même pour les autres franco que j'aimais bien quand j'étais encore jeune, si on montre la musique de franco, s'il y a de ces disques-là, comme Catherine Ndokeno, oui, là, ça, j'écoute.
Et donc, puis, les vieux succès, les anciens succès, vous écoutez.
Oui, les anciens succès, voilà.
Non. Les anciens succès, vous écoutez, vous aimez le folklore Luba.
Oui.
Vous êtes un bon danseur?
J'étais un bon danseur, mais on s'appelle, oui.
Alors, on va vous proposer un bon folklore Luba qui vous fera plaisir et qui fera, j'espère, également plaisir à tous ceux qui nous suivent dans les deux Kasaï, Kasaï oriental, Kasaï occidental, et même tous les Luba qui se retrouvent à travers dans toutes les provinces de la RDC, même à l'étranger. On va demander à la technique de nous balancer un morceau du folklore Luba et puis on va se retrouver juste après. Pour la suite de notre entretien, vous voulez ajouter quelque chose?
Oui, j'allais ajouter quelque chose. J'aime la musique Luba, parce que Luba, j'aime ça, j'ai connu. Et puis, la musique aussi même de Bantan, du Bas-Congo, parce que mon épouse est du Bas-Congo. Et alors, comme il y avait souvent des fêtes, on allait là-bas, oui. Donc, ça, j'écoute aussi.
D'accord.
Oui, merci.
Yeah, why you? De leur vie, de leur parcours et se livrent à cœur ouvert. Grand Témoin invite des femmes et des hommes de culture, des acteurs politiques, sociaux et du monde économique qui ont croisé différents événements et les changements qui ont accompagné les grandes étapes de la construction du pays. Grand Témoin, 45 minutes pour mieux comprendre notre histoire commune, racontée par ses acteurs. Tous les dimanches, 12h15, heure de Kinshasa, en compagnie de Kéline Kouté sur Radio Okapi.
Grand Témoin vous fait découvrir aujourd'hui Kasongo Munganga Constantin. Il est homme politique congolais, député national. Il est ancien administrateur délégué général adjoint du Centre d'évaluation d'expertise et des certifications des matières précieuses et semi-précieuses. Alors, Monsieur Kasongo, on va parler de vos débuts dans la politique. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans la politique?
Dans la politique? Non. Justement, j'ai aidé les autres. J'ai un ami que j'ai aidé pour la politique. Moi, je ne comptais pas que j'allais faire la politique. C'est de façon accidentelle que je suis entré dans la politique. C'était quoi? Quand j'étais à la Banque centrale, il y avait mon ami Saman qui faisait des missions à RTNC2. Il critiquait un ami Bahati, Lukwebo. Alors, j'ai commencé à aller à fréquenter cette mission-là, à RTNC2, pour défendre Bahati. Alors, c'est ainsi que c'était dans le cadre comme société civile. C'est ainsi que je suis entré dans la société civile de Bahati. Et quand on l'attaquait sur le plateau, et j'ai commencé à le défendre. Alors, maintenant, c'est ainsi que progressivement, c'était vers 2001 déjà, le président de la République est arrivé au pouvoir. Alors, quand on faisait des programmes économiques, j'ai vu que le programme économique là, allait dans le sens que moi aussi je le voulais. C'est ainsi que j'ai commencé en même temps à soutenir le président de la République, le président actuel. Et toujours tout en étant dans la société civile. Et voilà que lors du partage, pendant la transition, j'ai été au CIC. Alors, jusque-là, ce n'était pas dans la politique proprement dite, j'étais dans la politique active. Il y a eu quelqu'un qui était vraiment haut placé dans le PPRD, une caméra qui m'a dit que vraiment vous êtes très bien placé un peu pour implanter le PPRD dans le Katanda. C'est ce que j'ai accepté. J'ai commencé à implanter le PPRD dans le Katanda. J'ai envoyé même mon fils. Voilà un peu, je commence à entrer dans la politique sans savoir. Alors j'avais téléphoné à Bahati que tout en étant en société civile, je pouvais être aussi dans le PPRD. Il a accepté, oui. Soit aussi dans le PPRD, mais n'est pas de fonction politique très importante. Alors c'est ainsi que tout en étant
dans la société civile, vous étiez membre du PPRD.
Vous étiez membre du PPRD.
Est-ce que c'est normal?
Oui. Ah oui, ça je cherche à vous dire la vérité. Tous ceux qui sont dans la société civile ont toujours une tendance politique. Nous étions là. Il y en avait qui appuyaient le président Kabila. Il y en avait qui appuyaient, Bemba, etc. Ça, je vous dis la vérité. Uh-huh. Donc, il n'y avait pas des gens qui étaient totalement neutres, qui ne songent à quoi que ce soit. Non. Moi, alors, c'est ainsi que...
C'est comme ça que la politique active a commencé.
La politique active, ça a commencé en 2011. J'ai dit que non. Je suis de Katanda. Ça ne va pas. Ce qui s'est arrivé, c'est que je m'étais dépouillé beaucoup dans le PPRD. Donc, beaucoup de choses que j'avais dépensées pour le président et pour les autres. Mais j'ai vu que je n'étais pas aussi bien récompensé. Nous avons lutté pour le président, mais le partage n'était pas correct. C'est ce que, finalement...
Là, c'est en 2011 ou en 2006, après les élections de 2006.
En 2006, j'ai fait énormément, parce que je n'ai pas un document à vous donner ici. Et alors, quand les élections sont arrivées, donc j'attendais aussi que j'étais récompensé, comme je n'étais pas vraiment récompensé. Je n'avais pas mis en cause la politique du gouvernement.
Mais donc, vous, tout ce que vous faisiez, c'était pour être récompensé après?
Non. La politique, c'est quoi? Les partis politiques, ce qui ne marche pas, quand il faut lutter, tout le monde lutte. Mais quand l'heure du partage arrive, on songe à des cousins, à d'autres. Alors, c'est ce qui ne va pas. Alors, il ne faut pas que quand vous luttez, vous songez à des gens même qui n'ont pas du tout fait la politique, et plutôt qui n'ont pas lutté. Alors, ça crée des frustrations. Alors, je peux dire
que... Vous avez été frustré.
J'ai été frustré, exactement.
C'est
mais j'ai fait même des lettres.
En 2011.
En 2011.
Vous vous êtes présenté.
En 2011, alors, j'ai dit que non. Alors là, je quitte. Alors, j'avais informé les gens correctement. Tout ça, même le service des renseignements, même tout ça, que non, à cause de ça, je quitte. C'est ainsi que j'ai quitté. Je suis parti d'aller, c'est de N de Roger Mbaye. Malheureusement, vous savez, j'ai réussi. Je suis devenu député. Mais lui, il a préféré faire une rébellion armée.
Alors, là, M. Kassongo-Moundanga, vous êtes de l'opposition ou de la majorité?
Maintenant?
Oui.
Oh, la situation est délicate. Maintenant, vous me posez, je ne sais pas comment je vais répondre.
Parce que lorsqu'on suit souvent vos interventions, le RCD-N de Roger Lumbala, c'est un parti politique de l'opposition. Mais lorsqu'on suit vos interventions à la télévision, parce que vous aimez bien les débats télévisés, vous penchez beaucoup plus du côté de la majorité que de l'opposition.
Ah oui.
On ne sait pas très bien si vous êtes de la majorité ou de l'opposition.
Oui. D'abord, maintenant même, je ne sais pas dire opposition. Ceux qui se disent même de l'opposition, on dit qu'ils sont de la majorité. Et quand on dit opposition républicaine, on dit non, c'est majorité. Parce que tout le monde mérite auprès du président. Bon, je voudrais être clair pour votre question. D'abord, j'étais entré sans mettre en doute la politique du gouvernement de Kabila. Je suis allé là-bas pour des raisons personnelles.
C'est RCD-N
de Roger Lumbaye. Mais voici
est-ce
que...
Est-ce que ce n'est pas parce que vous aviez la chance d'être élu député avec le RCD-N?
Non, ce n'est pas la chance d'être élu. Il y a des gens de l'opposition à Katanga qui n'ont pas pu être élus. Et puis si moi je n'étais pas là, c'est quelqu'un de la majorité qui allait passer. Non, ce qu'il a fait, c'est que moi j'étais dans tous les secteurs, même tout ce que j'ai songé à la population. Même au moment où je parle, il n'y a pas quelque chose que je peigne comme ça. Je songe à la population. Alors je voudrais répondre à votre question, vous avez dit si j'ai la majorité ou pas. Sur le plan politique et économique, j'appuie totalement le président de la République. Mais légalement, je suis de RCDN. Et je ne peux pas quitter le RCDN tant que ce parti n'est pas dissous, parce qu'il est en voie de dissolution au niveau de la Cour suprême de la justice. Je suis obligé de rester dans ce parti.
Ou bien vous avez peur de perdre votre siège?
Oh, mais quand même, je ne peux. J'ai ce siège qui vient de la population pour que je puisse servir la population. Je ne peux pas chercher à servir le siège même si je devais avoir, si je n'avais pas peur, perdre pour gagner quoi? Gagner la guerre ou bien quoi? Je ne sais pas. Quelqu'un vous demandait.
Oui, perdre le siège de député parce que vous avez certains avantages tout en étant à l'Assemblée nationale là-bas.
Oui, mais disons, je pense que je sois courageux pour perdre le siège.
Parce que votre parti politique n'appuie pas la politique du gouvernement. Ah. Mais vous,
Non, n'appuie pas le parti. Le président fait des méthodes non démocratiques. Vous savez que même à l'Assemblée, on m'a montré que voilà, lui, il est dit SDN. Il est dit SDN. Parce que
et
le président
est. Vous avez honte. Il faut assumer, c'est votre parti politique.
Que je suis dit, nous sommes partis combattre, que je suis du M23.
Non, pas du M23, vous êtes du RCDM, même si le président M23. De votre parti politique a rejoint les M23, mais vous êtes membre de son parti politique.
Oui, et oui.
Il faut assumer.
Et quelle est la politique du parti? Chose à
donc,
la guerre.
Le RCDM n'a pas de politique.
Maintenant, je peux vous dire que les RCDM, il n'y a pas d'activité pour les SDN.
Mais avant que le président n'aille là-bas, n'aille rejoindre le M23, vous souteniez toujours politique du gouvernement.
Oui, oui, nous étions dans les facs fausses acquises au changement. Et donc, mais moi-même, peut-être personnellement, je dois vous dire la vérité, je disais que tout en étant dans l'opposition, nous devons appuyer les actions, des actions du développement du président de la République. Et c'est ce qu'ils font même les autres opposants qui sont là maintenant. Où l'opposition ne signifie pas refuser carrément tout ce que fait le président. Vous savez que le 15 décembre, ici, nous étions avec lui en Bougimaï, parce que, comme vous le savez, j'étais parti avec quelques députés, parce que je suis président du caucus des députés nationaux du Kassai Oriental. Mais nous étions à Katanda. Il a inauguré une usine de concassage à Katanda pour faire les routes. Il a inauguré, nous sommes partis dans les territoires de Miabi, il a inauguré des travaux qu'on fait là-bas pour une autre usine de diamants, d'exploitation de diamants. Et ça, il l'a fait juste quand il venait de terminer la guerre avec le M23 là-bas au Kiev. Il a commencé par les Kassai.
Vous êtes de l'opposition, mais vous appuyez la politique du gouvernement et du président de la République, c'est ça?
Légalement, je suis de l'opposition, mais pratiquement, j'appuie le président de la République. Mais je suis.
Pourquoi vous ne rentrez pas carrément à la majorité présidentielle?
Mais si la loi me le permettait, je peux rentrer. Si la loi me le permettait, parce que n'oubliez pas que je suis membre fondateur de la majorité présidentielle.
Alors, démissionner du RCD, rentrer dans
la majorité? Non, je ne peux pas. Si je démissionne, je dois perdre le mandat que le peuple m'a donné. Mais pour le moment, les SDN, il n'y a pas une activité maintenant des SDN. Parce que ça, je vous l'apprends, c'est que le ministre de l'Intérieur, Mouyès, a interdit justement les activités du SDN. C'est interdit. Donc, le SDN est suspendu. Il est à la Cour suprême de justice. Donc, maintenant, il n'y a pas une activité du SDN que je peux faire.
Alors, vous n'êtes pas constant dans vos positions, M. Kassongo Mbenga.
Oh, mais Kelly, vous ne savez pas. Je suis député national. Le mandat des députés nationaux n'est pas impératif. J'ai fait ce que la chose, ma conscience me recommande. Je suis patriote. Et alors, en tant que patriote, il n'y a pas une politique, même si les SDN n'étaient pas suspendus. Si je voyais que la politique que fait mon parti n'est pas conforme au développement de notre pays, je peux rejeter cette politique et faire voter comme ma conscience me le recommande. Voilà, donc ça c'est peut-être vous oublier. Je ne suis pas, le président même du parti peut me dire, fais ça, vote comme ça, je peux refuser. Et c'est ça, dans la Constitution, le mandat est non impératif. Donc, impérare, c'est ordonné. Donc, on ne peut pas imposer une position.
On risque de dire que vous êtes la majorité au sein de l'opposition. Donc, les opposants qui font semblant d'être opposants alors qu'ils sont de la majorité présidentielle.
Mais Kelly, qui sont même les vrais opposants maintenant? Moi-même ici, je voulais être même aussi aux consultations pour donner mes vues sur le développement de notre pays. On a rejeté ce que nous voyons comme des opposants radicaux, même de ces partis-là radicaux. Ils sont partis tous là-bas. Nous sommes restés à côté. Mais vous dites alors, finalement, qui sont opportunistes? Ceux qui sont partis même aux consultations ou bien ceux qui ont été même rejetés, on nous a abandonnés, nous. Et alors, ceux qui sont là, ils sont tous, au moment où nous parlons, moi je viens de l'intérieur où j'étais à ma base, j'ai travaillé à ma base, c'est là où je suis parti passer mon repos médical. Les autres sont en train de faire des démarches à gauche, à droite pour avoir des postes. Alors, c'est là, donc pour vous, vous ne le condamnez pas, mais moi qui suis à côté,
est-ce que la jeunesse qui vous suit aujourd'hui, ces jeunes qui ont une ambition politique, est-ce que vous êtes un modèle à suivre?
Les modèles, oui. Dans ce sens, je suis un modèle à suivre parce que je suis sincère dans tout ce que j'ai dit. Et ça, c'est la première chose. Deuxièmement, tout ce que je gagne, je le fais pour la population. Si vous allez un jour, vous êtes
à Tessoua de Gata, c'est que de la gagne... majorité de l'opposition.
Non, c'est que je gagne avec le mandat que le peuple m'a donné. Parce que j'avais dit au peuple que ce que je veux pour vous, pour le député, a deux choses. Et là où il est, il parle, et au niveau de l'Assemblée, il parle pour la population, pour son fief et pour toute la nation, et avec ce qu'il gagne, il doit travailler pour la population. Et alors, arrivé à Katanda, plus tard, si j'ai eu l'occasion, vous verrez à Katanda ce que j'ai fait. Les centres de santé que j'ai fait à Katanda, il y a maintenant l'agriculture que j'ai fait à Katanda, je construis même des mini-hôtels, etc., tout, pour que Katanda aille de l'avant. Et c'est ça le modèle. Le modèle, c'est que le fief qui t'a choisi, qui est en régression de la misère, il faut travailler pour ce peuple, pour cet espace-là économique. Voilà, donc, c'est dans ce sens-là que je suis modèle. Non. Alors, les autres modèles, ce qu'on fait, c'est que je suis un opposant radical. Opposant, le peuple ne mange pas le radicalisme, madame. Le peuple ne mange pas ça. Et d'ailleurs, maintenant, vous allez voir que d'autre part, que je suis des opposants, c'est pour être bien placé et avoir un poste. Avoir un poste. Qui, d'abord, ça ne vous étonne pas que maintenant, on ne sait pas même dire qui est opposant et qui ne l'est pas. Donc, et même, ils se contredisent. Ils se luttent, ils voient que peut-être un tel qui est opposant, il cesse de se placer bien, alors moi, lui, il risque de ne pas être bien placé, et ils se combattent. Mais nous sommes à côté. Nous, à côté. Vous voulez que nous, si moi, je dois commencer à dire que je suis opposant, et donc, que j'ai un gouvernement, c'est en ce moment-là que vous allez m'apprécier, Madame Kelly. Je ne sais
alors,
pas.
Alors, une petite question brièvement. Quel bilan vous dressez de l'action du gouvernement depuis les élections de 2011?
Depuis les élections, disons de façon générale. Pour dire le bilan, il faut dire d'abord ce que nous étions et puis ce que nous sommes devenus. Brièvement, sur le plan politique, quand le président actuel est arrivé au pouvoir, nous n'étions pas un seul État. Il y avait plusieurs États pratiquement. L'État était divisé. Maintenant, le pays est unifié. Nous n'étions pas en paix. Maintenant, le pays est en paix. Voilà, ça au moins, sur le plan politique. Sur le plan économique, nous étions, il y avait un désordre, un effondrement économique de notre monnaie. Nous étions chassés même des institutions de Bretton Woods. Il y a l'hyperinflation, il y avait les prix qui montaient du matin et du soir. Maintenant, qu'est-ce que nous sommes devenus? Nous avons la stabilisation du cadre macroéconomique, les prix sont stables. Et puis, il y a la croissance, la production qui ne faisait que baisser. Maintenant, il y a un taux de croissance positif depuis 2002. Et alors
mais
maintenant,
dans le panier de la ménagère.
Et puis, je voudrais terminer par là. Je vais répondre à cette question. Maintenant, nous sommes arrivés au point d'achèvement. Notre dette est de l'ordre de 2 milliards, 3 milliards, alors que c'était déjà 15 milliards. On a annulé parce que nous avons bien géré le pays. Et maintenant, nous cherchons, avec le gouvernement même actuel, à avoir un taux de croissance à des chiffres. Ça, on ne pouvait pas songer à ça. Alors, pour répondre à ce que vous dites, le panier de la ménagère, madame, de façon générale, notre produit intérieur brut par habitant, quand il est arrivé au poids, était de $80 par habitant. Maintenant, nous sommes dans les 250-280 dollars par habitant. Mais nous sommes toujours dans les pays à revenus faibles. Mais alors que les revenus faibles, ça va jusqu'à 1000. Donc, nous ne sommes pas même dans les revenus intermédiaires, pays à revenus intermédiaires. Mais à taux de croissance des chiffres, nous allons arriver à ça. Et nous allons arriver à ce que je disais dans le temps que nous serons un paradis terrestre. Alors, le taux de croissance à des chiffres me donne raison. Alors, pour dire le panier d'aménager, parce que c'est vague, c'est justement ces revenus qui augmentent, c'est ce qui fait que le pouvoir d'achat augmente. Mais les gens peut-être ne sentent pas encore parce que c'est encore faible. Mais ce que nous étions avant, c'était pire. Ça, c'est un. Et puis, les gens se trompent aussi quand ils disent même que du temps de Mouth, nous étions bien. Du temps de Mouth, quand il a pris le pouvoir, quand l'économie était bien en 65, ou bien quand il a quitté le pouvoir en 97, quand la situation était devenue chaotique.
Alors, on retient voilà. Que pour vous, le bilan est positif.
Pas pour moi. Pour tout le monde, le bilan est négatif. Les chiffres
non,
à l'appui.
Pour vous.
Les chiffres,
vous que je reçois dans cette émission.
Les chiffres à l'appui.
Oui, pour vous, le bilan est positif. positif.
Les bilans.
Alors, alors, on va analyser un peu le calendrier que la CENI a publié lundi dernier par rapport aux élections locales. Comment vous analysez ce calendrier? Est-ce qu'il est réaliste?
Oui, d'abord, je peux vous dire avec toute sincérité que je souhaitais que maintenant qu'on commence par les élections provinciales. Mais quand le président de la CENI, Emal Malou, a donné des raisons, j'ai changé un peu de position. Dans le sens qu'il a dit que nous devons commencer...
Vous avez suivi la position de la majorité.
Non. Okay, pas, non. D'ailleurs, non, je venais d'ailleurs de l'intérieur. Je n'ai jamais été à une réunion avec la majorité. Non, le bon sens, c'est qu'il a dit qu'on commence par la fondation. Donc, les élections locales, municipales et urbaines. Et puis après, on monte les élections provinciales. Et puis, l'élection de gouverneur et des sénatoriales. Puis, les élections législatives nationales. Et la présidence. Donc, c'est ça le cycle normal qui est prévu même dans la Constitution. Vous voyez que nous avons toujours décrié ça. Mais maintenant qu'on voudrait faire ça, on refuse. Vous allez trouver, Madame Kéline, dans tout ce qu'on dit, chacun cherche ce qui l'intéresse davantage. Donc, il faut un cycle normal de la base au sommet.
Alors, Monsieur Kasongo, le temps passe vite.
J'allais ajouter quelque chose sur ces élections. Madame, c'est que je préfère que les élections même puissent connaître un retard si, pour cela, ils doivent être bien préparés. Plutôt que précipiter...
Là, vous parlez des élections présidentielles de 2016.
Mais pourquoi pas de toutes les élections? Pourquoi on parle toujours de présidentielles? Moi, je parle de toutes les élections.
Okay.
Il faut un retard et si le retard permet de bien préparer, tant mieux, plutôt que précipiter. Et alors, maintenant, c'est que moi-même, qu'est-ce que je cherche dans la meilleure préparation de ces élections, c'est que, vous savez, avant, on trichait beaucoup parce qu'il y a un bureau de vote, on part au bureau de dépouillement, en cours de route, on met des bulletins. Ça, c'est en 2006 et avant. Maintenant, en 2011, on a amélioré, il y a des bureaux de vote, le bureau de vote se transforme en bureau de dépouillement. Et alors, mais maintenant, qu'est-ce que je cherche comme amélioration à ce niveau-ci, dans la mesure où nous avons des fonds, c'est que le bureau de vote se transforme en bureau de dépouillement et les résultats sont communiqués directement aussi au serveur central à Kinshasa. Sont communiqués à Kinshasa. Si bien que même si on fait des tripotages là encore là-bas, donc Kinshasa est déjà informé. Voilà un peu. Ça intéresse tout le monde. Donc nous devons lutter pour tout.
Alors, monsieur Kassoumou Munganga, nous sommes à la fin de notre entretien. Je vais vous accorder juste quelques secondes pour votre mot de la fin à tous ces auditeurs de Radio Capital. Qui nous suivent en ce moment. Qu'est-ce que vous leur dites?
Tout ce que je peux dire à mes auditeurs, c'est que justement, au niveau individuel que chacun peut étudier, peu importe la situation dans laquelle il se trouve, il ne faut pas invoquer le malheur. Non, moi-même qui vous parle, j'étais un orphelin de père et de mère. J'ai dû étudier. Sur le plan politique, je vous dis que qu'il n'y a pas un président de l'opposition et un président de la majorité, c'est un seul président. C'est ce qui fait que maintenant, tout le monde l'appuie tout simplement parce qu'on a vu qu'il y a un changement avec le passé. Le passé où, justement, on allait dans l'enfer. Maintenant, avec la construction que nous avons, on est arrivé au point d'achèvement. Maintenant, nous cherchons à devenir même un pays émergent et pour devenir un pays terrestre où pour transformer notre pays en paradis terrestre, nous devons appuyer alors le gouvernement, la majorité, tout comme l'opposition.
Merci beaucoup, Monsieur Kasongo.
Oui, merci.
Et Grand Témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que je recevais Kasongo Munganga Constantin. Il est homme politique congolais et député national. Il est ancien administrateur délégué général adjoint du Centre d'évaluation d'expertise et de certification des matières précieuses et semi-précieuses. Merci à Héritier Sidiakala et Paul Badianyama qui est à la mise en onde au micro Kéline Kouté. Retrouvez cette émission sur notre site internet www.radiokapi.net. Bon dimanche chez vous et bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.